L'entrevue ce matin avec Renaud de Vargas, humoriste suisse, un entretien réalisé en été dernier. Qu'est-ce qu'on en retiendra de ce virus? On fera peut-être comme nos grands-parents quand, après un de ces interminables déjeuners, avec beaucoup de nostalgie, ils nous content de belles péripéties, avec comme support des albums photos. On les voit jeunes et beaux. À chaque fois, j'ai toujours l'impression que ce ne sont pas les mêmes personnes. Au fond de moi, je les admire. Durant les premières semaines où on s'enfermait chez soi, j'ai pris des nouvelles de ma grand-mère. Quand je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se protège, elle m'a dit qu'il faut arrêter de dramatiser et que de toute façon, ça n'a rien de pire que ce qu'elle a connu dans sa vie. En réalité, j'ai eu l'erreur de croire que c'était leur génération qui allait souffrir psychologiquement, alors que non, c'est la mienne. Depuis toujours, nous nous sommes adaptés à un certain confort de vie. Or, le moindre impact sur notre quotidien, le moindre changement nous bouleverse, nous blesse tellement. Il n'y a qu'à faire le constat et à regarder tous ces étudiants qui n'en peuvent plus dans leurs petits 4 mètres carrés qu'ils convoitisaient tant et qui, il y a encore 2 ans, étaient pour eux le prix de la liberté. Pour conclure, j'ai une question et je m'adresse à ma génération. Est-ce que le Covid est notre ennemi ou est-ce que celui-ci nous a poussés à modifier nos habitudes ancrées dans notre quotidien ? Soyez les bienvenus dans l'entrevue. L'invité que je reçois ce matin nous raconte tout en humour ces petits détails de notre quotidien, sur les planches ou à la radio. Bonjour Renaud de Vargas.
Bonjour Théo.
Comment ça va ?
Ça va super bien, merci.
Pour une première question, j'avais envie de la poser, elle est assez bateau, mais le job d'un humoriste est-il au final de dédramatiser la réalité ?
Dis donc, d'entrée de jeu, c'est une sacrée question. Oui et non. Enfin oui, parce que forcément l'humour permet d'aborder des sujets sensibles. Et non, parce que on parle de tout et de rien. On peut aborder tout type de thématiques et c'est ça qui est bien avec l'humour, des plus sérieuses justement aux plus légères. Et c'est ce qui permet de se dire que avec l'humour on peut plus ou moins tout faire.
D'accord. T'es un peu un couteau suisse finalement.
Alors je sais pas si je suis un couteau suisse. Enfin, en tout cas, c'est vrai que j'essaye de. Enfin, c'est important, j'imagine, d'essayer de développer son propre style en tant qu'humoriste. Et puis après, justement, ça permet de un peu comment dire de tester différents horizons, différents styles d'humour, etc. Donc couteau suisse, je sais pas, mais en tout cas, c'est clair que j'essaie de rendre mon style le plus éclectique possible.
Et quelle est ta vision justement du temps qui passe à travers notre quotidien, à travers ton quotidien ?
Je trouve que le temps passe très vite, surtout depuis quelques années, parce qu'il faut savoir que je viens d'avoir 28 ans, et c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait une dizaine d'années que j'ai l'impression que tout passe extrêmement vite. Cette année, malgré tout ce qui s'est passé, on l'a pas vu passer non plus, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu d'été, on s'est vraiment endormi au mois de mars, on s'est réveillé en septembre, c'est un truc de fou. Ma notion du temps est, je sais pas si elle est biaisée, mais en tout cas j'ai la claire sensation que le temps s'accélère avec les années, ouais.
J'ai envie de parler un petit peu de toi, de comment tu en es arrivé jusqu'ici. Donc tu as fait une école de théâtre en 2006, sauf erreur. À l'époque tu avais un petit peu plus de 15 ans.
C'est ça, exact, ouais.
Et finalement faire rire les gens déjà très tôt, était-il pour toi une évidence ?
Une évidence, je sais pas si je peux dire ça. Disons que c'est un petit peu cliché ce que je vais dire, mais c'est vrai que beaucoup d'humoristes disent alors moi je faisais rigoler la famille, puis on me disait vas-y, fais du théâtre. Et c'est un petit peu ce qui s'est aussi passé avec moi. Et puis très très vite, j'ai eu une fascination pour les humoristes, et principalement Jamel Debbouze quand il était encore drôle. très très tôt, j'ai un petit peu baigné là-dedans. Je m'intéressais justement au sketch, j'avais une fascination pour ces gens qui avaient cette capacité à parler devant des gens et faire rire. J'ai osé en fait tenter des choses en improvisation, à faire le bobex, que ce soit en famille d'abord, puis après sur scène avec des camarades de cours de théâtre, ou alors même sur scène face à du public. Et puis c'est un petit peu comme ça que c'est arrivé. Je pense pas être prédestiné à ça.
Est-ce qu'on t'a reproché pendant une période de faire le bobex, comme tu le dis si bien ?
Oui, bien sûr. En famille et aussi à l'école, ça m'a joué plusieurs tours. J'ai passé passablement de temps derrière la porte pour des raisons évidentes, à savoir interrompre, pas se concentrer, interpeller les autres, tenter d'amuser la galerie. Oui, clairement, on me l'a déjà reproché. Ouais.
Qu'est-ce qui t'a attiré d'aller justement vers le théâtre, de vouloir faire du théâtre ?
Bah, disons que quand on nous répète, quand on est plus jeune, qu'on est drôle, qu'il y aurait un potentiel, le premier truc auquel on pense, c'est le théâtre. Chose qui m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience en termes de présence scénique, de savoir parler fort et pas rester dans son coin, de développer plein de capacités en fait, diverses et variées.
Mmh. Puis j'avais envie de parler aussi, comme on est encore dans ta phase passée, de nous raconter ton duo Malvin et Renaud, qu'est-ce que c'est ?
Ah, malheureusement, je vais parler au passé. Qu'est-ce que c'était ? Malvin, c'est mon meilleur pote que je me suis fait au théâtre, justement. Et on a très vite remarqué qu'il y avait une grande alchimie entre nous deux. On faisait les bobets en dehors de scène, mais aussi sur scène, ensemble. Et puis, pour la petite anecdote, un certain Thomas Wiesel faisait partie de notre troupe de théâtre également. C'est un petit peu lui qui nous a mis le pied aux fesses, pour parler vulgairement, en nous disant « Les gars, vous voulez pas lancer quelque chose ? Vous voulez pas faire un truc en duo ?» Et c'est un petit peu de là que c'est parti. Et de cette alchimie scénique et surtout amicale est venu des sketchs, différentes scènes pardon, à travers la Suisse romande et puis un spectacle qu'on a joué à 5 ou 6 reprises.
Et puis tes spectacles avec Malvin, est-ce que c'était aussi une histoire d'une longue amitié ?
Oui, c'est une question intéressante parce que nos sketchs étaient alimentés de choses qu'on faisait aussi dans la vraie vie ensemble. On se retrouvait pour manger des pâtes au lieu de bosser et regarder Friends. Donc forcément, on s'est senti obligé d'en parler dans un de nos sketchs. On nous a aussi demandé, mais est-ce que vous êtes aussi en couple dans la vie, en plus de l'être sur scène ? Donc à force qu'on nous pose cette question sur le ton de la rigolade ou sérieusement, on s'est dit, si on écrivait un sketch sur notre prétendue homosexualité. Et voilà, en fait, c'est très clairement, nos sketchs et notre spectacle ont été alimentés de faits du quotidien et surtout de faits qui nous ont liés les deux.
Et comment l'intimité crée du fait de bien se connaître, d'être amis, a-t-elle influencé tes sketchs, notamment dans le processus de création et d'écriture ?
Alors, en fait, c'est un petit peu une question rhétorique ce que tu viens de faire, mais du coup, c'est très intelligemment dit parce que, en effet, si on se connaît bien, si on s'apprécie, s'il y a une faculté à pouvoir écrire, et bien tout de suite, c'est plus facile justement pour la dite écriture. Et ça vient nettement plus rapidement, on n'a pas peur de la critique de l'autre, on n'a pas peur de rater, de recommencer, de reprendre. Donc il ne pouvait pas y avoir cette alchimie sur scène si elle ne l'était pas en dehors.
Mmh. Et puis dans vos pièces, il y avait une volonté de se différencier, de se démarquer de la forme de stand-up qu'on rencontre souvent. Pourquoi ?
Alors on avait déjà l'avantage d'être deux, donc oui. Forcément en étant deux on se différencie des autres. Non mais ça peut paraître bête, mais c'est vrai que forcément en étant deux tu fais pas la même chose que ce que ferait un stand-upper ou une stand-upeuse en solo, donc forcément on a une espèce de connexion totalement absurde. Par exemple, c'est toujours un exemple qui me frappe et qui, je trouve, qui illustre assez bien ce qu'on pouvait écrire aussi pour nos sketchs sur scène. On avait tendance, à chaque fois qu'on se salue, on se disait jamais bonjour. Il fallait toujours qu'il se passe un milliard de trucs avant. On se passe l'un devant l'autre sans rien se dire. On se crie dessus. Puis tout d'un coup, on se dit ciao, mec, ça va. Donc il n'y avait jamais une façon normale de se dire bonjour avant qu'on se le dise vraiment. Et du coup, oui, c'est vrai que pour ça, je lui en suis reconnaissant à Malvin parce que il a beaucoup contribué aussi à qui je suis encore pas grand monde, mais il m'a beaucoup aidé pour ce que je suis en train de faire maintenant en solo.
Oui, en solo d'ailleurs, parce que tu te lances aujourd'hui dans le format du One Man Show avec le spectacle Comment on va l'appeler, avec une représentation prévue en avril 2020 au CPO, ou CPO, je ne sais pas comment on dit.
Le CPO,
je suis
CPO,
américain.
C'est, ouais, c'est pas à New York.
À Lausanne, hein, qui a malheureusement dû être annulé pour des raisons qu'on connaît, et d'autres représentations prévues pour les mois à venir. Est-ce que tu avais envie de te lancer plutôt dans un One Man Show plutôt que dans un Man Show? C'est un peu osé cette blague, mais...
Non, mais notre spectacle à Malvin et moi s'appelait Deux Hommes Show, show écrit S-H-O-W. Donc on n'était pas allé chercher... Je ne sais pas si aujourd'hui on serait toujours aussi fiers de ce titre, hein, pour être très très honnête. Mais en fait, nos chemins se sont séparés avec Malvin pour une raison assez évidente, qui arrive à plein de gens qui sont dans le domaine artistique souvent, que ce soit de la musique ou autre. Les objectifs de carrière sont différents. Et Malvin n'avait plus cette envie de continuer à jouer à gauche, à droite, de traverser la Suisse romande, d'aller à Genève pour jouer 12 minutes, de revenir, etc. Donc pour moi, c'était comme une évidence qu'on arrête tout simplement notre carrière respective, enfin notre carrière en commun, pardon. Et puis Malvin a des envies d'ailleurs, de bouger sans arrêt, ce qui colle pas trop avec l'envie de vouloir se faire une petite place dans le domaine de l'humour. Donc c'est tout naturellement que j'ai dû me tourner vers un one man.
Et puis un spectacle en one man show, c'est aussi de nouveaux challenges aussi pour toi, j'imagine.
Oui, complètement. Faut savoir que rien qu'en termes d'écriture, c'est complètement différent d'écrire à dos ou d'écrire seul. Si tu fais une blague, si tu penses à une blague et que tu l'écris et que vous êtes deux, si ton pote esquisse un sourire ou un simple « Ah putain, ouais, t'es con », tu te dis « Ah, il y a peut-être un potentiel comique ». Quand t'es en solo, t'es seul face à ta feuille blanche et tu peux écrire t'écris des blagues, après tu les tentes et ça passe ou ça casse. L'avantage, c'est qu'en effet, quand t'es en duo, t'as une première validation qui peut, si elle a fonctionné auprès de ton camarade, peut peut-être potentiellement fonctionner face à un public.
Mais pas toujours.
Pas toujours, évidemment pas, non, bien sûr. Mais après, maintenant j'ai la chance de... Faut savoir qu'on est un groupe extrêmement soudé en Suisse romande, parce que forcément, de par la taille, on se connaît toutes et tous pratiquement dans l'humour en Suisse romande. Forcément, il y a des affinités avec plus que d'autres, mais c'est vrai que je pense à des gars comme Les Bersinger, Thomas Wiesel, Johan Provenzano, Bruno Pecky, Alexandre Kominek, etc. C'est des gens avec qui... que je côtoie, on s'échange régulièrement, on se dit tiens, est-ce que tu penses que ça passerait, donc on a cette chance en Suisse romande, peut-être à l'inverse de Paris où c'est un peu plus un monde de requins et où il y a peut-être un peu plus de concurrence. Là on est tellement peu qu'on préfère se souder que se tirer dans les pattes.
D'accord, c'est beau de faire comme ça finalement.
Ah complètement, oui, bien sûr, et puis c'est une plus-value et puis ça permet d'avoir un œil extérieur aussi sur ce qu'on fait.
C'est plus simple de jouer seul ou plus complexe?
C'est incomparable parce que question piégeuse, on me l'avait jamais posée celle-ci. C'est peut-être parce que j'ai encore pas été interviewé une centaine de fois. Du coup, j'y suis moins préparé. Non, mais disons que c'est très différent. La sensation est différente, forcément. Je pense que, enfin, je l'ai déjà vécu, mais c'est vrai qu'arriver à la fin d'un sketch, quand t'es à deux, tu te répartis un petit peu les applauses du public. Tu dis même peut-être encore une fois, faites encore du bruit pour Malvin. Puis Malvin dit encore, faites encore du bruit pour Renaud. Tandis que quand t'es seul, t'es tout seul face à tout ce monde et puis les applaudissements sont pour toi et toi seul, donc il y a un côté peut-être, je pense que c'est peut-être un peu plus l'ego qui est flatté quand t'es seul que quand t'es à deux, c'est un petit peu ce qui diffère. Dans ta question il y avait aussi si je préférais un ou l'autre, c'était ça?
Pour toi, de jouer avec quelqu'un d'autre ou être seul, en effet, face au public?
Alors l'avantage d'être seul, c'est que tu sais à quoi t'en tenir. Tu joues tes choses, c'est comme je le disais avant, ça passe ou ça casse. L'avantage d'être en duo, c'est vrai que si t'as un petit blanc, si t'as quelque chose, il y a peut-être ton pote qui est là pour te le rappeler. Donc je pense que jouer en solo, c'est quand même quelque chose qu'il fallait que ça m'arrive à un moment donné. D'ailleurs, à l'époque où je rêvais de faire du stand-up, avant même que je commence le théâtre, je l'imaginais seul et pas en duo.
C'est perturbant.
De quoi tu dis de...
D'être seul sur scène.
Alors ça change. C'est vrai que la première fois que j'ai joué un sketch en solo, c'était pas prévu. C'était pour la dernière du Lido à Lausanne, le Lido qui a fermé ses portes il y a quelques années. Et on était une vingtaine, mais peut-être même plus une trentaine d'humoristes à se relayer dans cette salle. Et Malvin, la veille, était tombé malade, il n'avait pas pu être là, et du coup, j'avais dit à Thomas Wiesel, qui présentait un petit peu la soirée, mais est-ce que je fais quand même quelque chose? Puis il m'a dit, mais écoute, personne ne se souviendra de toi, vas-y, écris quelque chose, on s'en fiche. Je ne savais pas comment le prendre sur le coup, mais c'est vrai que quand je suis monté sur scène, tu dis bonsoir à tous, tu te tournes sur ta droite, et t'as personne, tu dis, ok, maintenant c'est toi et ta tronche face aux gens. Donc c'est vrai que la première fois était délicate, ça a été. Mais après tu prends quand même rapidement le pli et puis tu apprends à utiliser l'espace autrement, à créer de la symbiose avec le public et ça va relativement tout seul.
Mais alors tiens, parlons de ton spectacle, comment on va l'appeler, pourquoi ce titre?
Alors pour deux raisons, enfin il y a un double sens, comment on va l'appeler le spectacle et comment on va l'appeler moi-même, parce que comme mon prénom l'indique, il est rigolo, c'est un homonyme d'une marque de voiture pour famille recomposée, donc c'est quelque chose dont j'ai souffert, c'est peut-être un petit peu un grand mot, mais c'est quelque chose qu'on, qu'on a souvent relevé quand j'étais enfant, voilà, Renault, Citroën, Renault, Peugeot. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui est passé au travers de la tête de ma mère pour m'appeler comme ça? Et du coup, bah voilà, c'était tout simplement ça. C'était un petit peu un clin d'œil familial sur mon passé aussi en tant qu'écolier, où on me vannait sur mon prénom et un titre de spectacle qu'il fallait trouver. C'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler comme on va l'appeler.
T'as mal vécu l'école? Enfin, je veux dire, ton parcours scolaire.
Alors, mal vécu, non. En fait, j'ai un parcours scolaire un petit peu chaotique. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu. J'adorais me retrouver avec mes potes. Au bout d'un moment, j'allais en cours pour les camarades, en fait. Uniquement pour ça. J'avais plus aucun intérêt pour les cours à suivre, les profs, les notes. Donc souffert, non, mais c'est vrai que j'ai presque l'impression que mes parents ont en plus souffert parce qu'ils étaient inquiets. Mais moi, j'étais assez décidé sur ce que j'avais envie de faire très très tôt. Ça a été, c'est passé par des chemins assez sinueux, mais aujourd'hui, je suis très content.
Mais il y a de quoi?
Oui, alors après, attention, j'en suis encore aussi au tout début, bien sûr. Je veux dire, quand justement tous les gags dont je te citais le nom tout à l'heure, Blaise, Thomas, Alexandre, Kominek et autres, bah voilà, c'est des gars qui ont déjà de la bouteille. J'ai commencé plus ou moins en même temps que l'humour, mais à l'époque, moi, j'étais en duo. Donc là, voilà, avec mes diverses activités à gauche et à droite, c'est vrai que je prends encore un petit peu mon temps. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, vraiment, j'en suis au début. Mais pour l'instant, je suis très content de ce qui se passe et de pouvoir bientôt commencer justement à jouer mon spectacle.
Donc vous avez également rejoint l'équipe des Bras Cassés ou Tous les Jours à 17h05 si je ne me trompe pas. On a la chance de vous écouter et de rire en votre compagnie pendant quelques minutes. Vous aviez envie de vous lancer dans d'autres formes de performance, d'où votre volonté de faire rire sous forme de chronique?
Alors en fait, c'est vrai que de base j'avais envie de faire de la scène. Bien sûr. Et puis Blaise Bersinger, justement, que j'aurais décidément beaucoup cité dans cette interview, a donné mon nom à Valérie Paco, animatrice des Bras Cassés, au moment où elle cherchait des chroniqueurs pour son émission qu'elle lançait à la rentrée 2017. Et moi, la Couleur 3, c'est une radio avec laquelle je me suis réveillé quand j'étais petit, les 2 minutes du peuple, etc., dont c'est une des seules dont j'apprécie la grille musicale également. Donc c'était une très très bonne opportunité à prendre. Donc là, pour répondre à ta question, j'ai vraiment ces deux canaux, quoi. La scène et les chroniques. Donc c'est très très bien comme ça, je suis très content.
Mais qu'est-ce qui change particulièrement dans la manière d'écrire les sketchs entre les spectacles et les chroniques?
Alors, le ton déjà, il y a quelque chose de différent. C'est vrai qu'une chronique, elle est habillée par des ambiances, par des bruitages, par des musiques de fond. Dans l'idéal, il ne faut pas dépasser les 4 minutes de chronique. Il ne faut pas faire moins de 3. Donc il y a un truc extrêmement structuré comme ça qui laisse peut-être un petit peu moins de place à l'improvisation, à l'inverse de la scène justement, où là, t'as plus d'espace. Tu peux vraiment t'adapter, tu peux enlever quelque chose en fonction si tu dois jouer moins de temps quelque part. Donc c'est vrai qu'il y a quand même quelques différences, même si ça ne m'a pas empêché de m'inspirer de certaines chroniques que j'avais faites pour en faire des sketchs. Sketch que j'ai déjà joué d'ailleurs à gauche et à droite et qui sont, comme je le disais, issus de chroniques spiquées à l'antenne sur la 3.
Mais venant du milieu du théâtre, on le répète, ça doit être étrange pour toi justement de ne pas voir ton public quand tu fais des vannes.
Oui, en effet, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Après, le petit avantage qu'on a quand même à Couleur 3 dans les Bras Cassés, c'est qu'on est quand même accompagné autour de la table d'une animatrice et de 2 autres chroniqueuses ou chroniqueurs. Donc il y a quand même un mini public. Et voilà, suivant les réactions de tes collègues, tu te dis, ah tiens, potentiellement ça a peut-être aussi marché auprès des auditeurs.
D'accord. Eh bien écoute, on se retrouve tout de suite après une petite pause musicale. Merci à toutes et tous, à tout de suite dans notre...
Tell me first, what you down to leave your dead, don't make them scared. Yeah, it's the thought of the truth.
De retour dans l'entrevue avec notre invité du jour, Renaud de Vargas, humoriste sur scène et à la radio. Dans vos spectacles, comme dans vos chroniques, on retrouve chez vous un certain goût pour l'absurde, pour la mise en scène de situations quotidiennes, pour l'imitation et notamment un fort goût pour les accents. Comment est né cet intérêt pour les scènes et les activités de la vie quotidienne ?
Alors, la scène, comme je l'avais dit un petit peu tout à l'heure, c'est en entendant parler d'humoristes, en les voyant se produire sur scène, par le biais de cassettes VHS à l'époque, donc autant te dire que ça date. Et puis, alors l'aspect du quotidien, c'est vrai que on a tendance... On peut avoir tendance à tomber un petit peu dans les clichés justement de, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous prenez le bus, c'est toujours quand on n'a pas son billet qu'on se fait contrôler. Donc ça, c'est quelque chose qui je pense est à éviter. Après, il est vrai que la totalité de ce que j'écris est issue de choses qui m'ont fait sourire ou au contraire qui m'ont révolté ou que j'ai remarqué, que j'ai trouvé bizarre. Et tout ça fait que forcément ça donne naissance à des sketchs.
Mmh. Puis on peut souvent comparer, en tout cas les humoristes, aux youtubeurs, en tout cas pour la presse traditionnelle, ouais. On n'en fait pas partie, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, les youtubeurs avaient cette fameuse tendance de faire des podcasts vidéo pour parler de sujets un petit peu normaux, quotidiens aussi. Est-ce que tu vois, toi, un rapprochement ?
Avec le stand-up ?
Avec le stand-up, entre autres.
Disons que c'est que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur scène, finalement dans les deux cas, en tout cas je connais certains youtubeurs, je suis pas spécialement un aficionados de youtubeurs justement dont on imageait tout à l'heure dont tu imageais justement le créneau un petit peu, voilà, parler du quotidien. Mais en fait j'ai l'impression que si on veut faire rire, on est forcément on a plus de chances de toucher les gens en parlant de choses qu'ils connaissent. Mmh. Et à partir de là, c'est être à la plage, c'est aller faire ses courses, partir en vacances, ne pas partir en vacances. Forcément, tu es obligé, je pense, si tu veux parler aux gens et maximiser les chances de les faire rire, de parler de choses qui leur parlent, qui connaissent, qui vivent aussi.
Est-ce qu'au final, ça ne devient pas un peu lassant pour l'audience ?
Je pense que ça peut l'être s'il y a une espèce de stigmatisation et de répétition au fil des années de ce qu'on peut voir. C'est vrai que, en tout cas à titre personnel, quand j'entends un youtubeur ou une youtubeuse ou un humoriste ou une humoriste parler aujourd'hui de sa relation amoureuse et de dire « Oh là là, c'est chiant quand ma copine elle met des plombes pour se maquiller », tu dis que t'as quand même un petit peu fait le tour. Alors après, attention, moi je pense que c'est pas pour stigmatiser les gens qui parlent de leur copine qui se maquille pendant des heures, mais il y a peut-être d'autres moyens de le faire, d'autres axes, en jouant la personne, en disant qu'en fait, au contraire, tu trouves ça génial, et puis t'expliques aussi pourquoi. Donc ce qu'il faut éviter, c'est de, je pense, au-delà de parler du même sujet, parce que ça, c'est obligé de le faire, tout le monde, on a toutes et tous abordé les mêmes sujets à un moment donné ou à un autre, ce qui est important, c'est de l'aborder différemment, avec un angle différent.
Et puis toi, qu'est-ce que tu aimes dans le fait de mettre en scène des situations quotidiennes et finalement de montrer ce qu'il y a d'extraordinaire dans le banal ?
Oh, c'est si joliment dit. Je crois qu'il y a une étoile filante qui vient de passer. C'est toi, Théo, qui vient de la cracher, cette étoile filante. C'est vrai qu'il y a cette satisfaction quand il y a quelque chose qui nous fait sourire de se dire « Ah, là, il y a un potentiel comique. » Moi, ça me fait sourire, donc potentiellement, ça peut faire sourire ou rire d'autres gens aussi. Moi ce que j'aime, c'est cette phase justement de un petit peu où tu essaies de décortiquer ce que tu as vu justement de banal, et puis après l'objectif, c'est de rendre ça absurde, de le rendre décalé pour justement après aller dans des coins où les gens ne vont pas quand ils s'arrêtent simplement au sujet banal qu'il soit.
Et puis, quel est ton regard surtout par rapport à notre beau pays, la Suisse? Je suis français de base. Hein.
D'accord.
C'est très drôle, pour moi en tout cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est quel est ton regard par rapport à cette vie culturelle suisse, puisque tu te permets d'en parler particulièrement et régulièrement à tes spectateurs?
Moi, je trouve qu'il y a un panel assez large qui se diversifie avec les années. Le stand-up, ça fait maintenant 10-15 ans qu'il est, 10 ans on va dire, qu'il a émergé un petit peu en Suisse, qui est vachement tard quand tu compares ça à la France ou même aux États-Unis et aux pays anglophones en général. Mais là, c'est vrai que depuis bientôt une décennie, il y a vraiment un engouement qui se crée et on voit qu'il y a du potentiel aussi en fait. Comme je te le disais avant, il y a plein de gens que je connais dans ce domaine de l'humour, on est beaucoup, on est soudés et c'est très, je trouve que c'est très bien pour la Suisse en général. La culture se développe, et ce, malgré une petite crise sanitaire dont on connaît l'identité.
On en a marre d'en parler, de cette crise sanitaire.
Ouais, ouais, maintenant c'est un peu comme Voldemort, on esquive le truc. On n'est plus crise sanitaire, on dit ce dont vous connaissez le nom.
Et puis, c'est vrai que tu as un goût pour les accents suisses. Hein, parce qu'en Suisse, cette réputation d'avoir un accent.
Voilà.
Comment toi, tu vois ces accents? Et puis, est-ce que tu aimes provoquer peut-être les gens?
Oui, alors c'est pas, je pense pas que ce soit une provocation extrêmement virulente, hein, mais c'est vrai que j'ai toujours eu une fascination pour les accents.
Quels sont les éléments de ton quotidien qui t'inspirent particulièrement dans l'élaboration de tes idées?
Alors, c'est des éléments que j'ai côtoyés, c'est souvent ceux qui m'ont marqué. Comme je le disais avant, si j'ai appelé mon spectacle comme on va l'appeler, c'est parce que il y a un double sens en rapport avec mon prénom. On me faisait des vannes sur mon prénom à l'époque quand j'étais petit, donc voilà, c'est quelque chose qui marque forcément, qui reste dans la tête. Donc à un moment donné, tu dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à exploiter et un potentiel comique. J'ai été traumatisé par les chiens étant petit, donc j'ai décidé d'en parler aussi. Donc moi je dirais que c'est ça, pour essayer de résumer un petit peu la chose, c'est que les éléments sur lesquels on s'appuie pour écrire nos sketchs sont des éléments qui nous ont marqué plus ou moins fortement, qui ont provoqué une émotion, quelle qu'elle soit finalement.
On imagine que cela implique un grand sens de l'observation, une grande sensibilité à son environnement, une capacité à déceler ces petits quelque chose qui fait qu'on arrive ensuite à le reproduire et le mettre en scène. Donc faire rire vos spectateurs, qu'est-ce que ça vous procure comme émotion?
Alors, faut avouer que c'est assez sympa, c'est très appréciable. Enfin, c'est surtout en fait une reconnaissance des efforts fournis pour écrire un sketch potable, ou plus que potable. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire que de jouer un sketch, de se dire, peut-être pas d'être convaincu, mais de se dire, tiens, ah, ça je suis sûr que c'est marrant, puis qu'en fait c'est la plantée totale une fois face au public. Ça peut arriver, j'en suis sûrement pas, enfin ça va sûrement m'arriver encore, parce que comme je l'ai dit avant, je suis un nouveau novice, puisque je suis passé du duo au stand-up en solo. Donc il y a vraiment ce côté où ça fait du bien. Et puis surtout, plus il y a de rire et plus il s'enchaîne, plus t'es à l'aise sur scène et mieux ton sketch se passe.
Comment avez-vous réagi sur le fait de ne plus voir vos spectateurs?
Alors au début c'était assez perturbant. T'enchaînes un petit peu, t'essayes d'enchaîner plutôt en te disant voilà. Alors et puis maintenant avec le temps, t'arrives à prendre sur toi en fait, c'est ça qui est cool, je trouve. Et c'est, tu crées un nouveau style d'autodérision en plus de ce que tu peux déjà dire dans tes sketchs, en t'auto-vanne. Par exemple, ça m'est arrivé à Fribourg il y a 2 mois, j'ai vraiment fait une vanne en disant d'ailleurs à l'organisateur de la soirée, juste avant, ça les fait rire le hockey, ils connaissent un petit peu ici. Puis je fais une blague sur l'équipe de hockey de Fribourg, pas une seule réaction dans le public. Là, j'attends 2 secondes et je dis, bon, celle-ci, je crois que je vais la laisser. Donc, je vous disais, et puis voilà, et puis t'en rigoles toi-même, et puis tu dis, ok, personne regarde le hockey ici, puis limite, même, c'est peut-être même ça qui va déclencher le rire, et au final, t'arrives à te rattraper. Donc, le secret, surtout, je pense, c'est de surtout pas s'arrêter après une vanne ratée. C'est vrai qu'après 10 blagues ratées en un seul sketch, il faut peut-être commencer à se poser des questions, mais s'il y en a une qui fonctionne pas sur 3, 4, 5, 6, pas la peine, faut enchaîner. Prendre sur soi, limite désamorcer justement en disant au public, écoutez, bah voilà, visiblement vous connaissiez pas ce sujet, ou alors c'est moi qui ne suis pas drôle, et faut enchaîner. Faut pas se prendre la tête en tout cas, ça c'est sûr.
D'où vient cette volonté, ce plaisir à faire rire?
Alors le plaisir, alors cette volonté, je sais pas si je peux parler de volonté. Tout ce que je sais, c'est que j'ai ce plaisir à être sur scène et à faire rire les gens. Est-ce que c'est pour combler, je sais pas, une espèce de... Non, mais non, j'ai pas manqué d'attention et ton petit, donc c'est même pas ça, mais est-ce que c'est pour flatter... Je pense qu'il y a une part un petit peu pour flatter l'ego. J'ai aussi été un enfant extrêmement timide étant petit jusqu'à l'âge d'une dizaine d'années. Donc c'est peut-être aussi un moyen un petit peu maintenant de compenser, de se dire « Ah, finalement, j'existe et je peux faire quelque chose qui peut-être plaire, tout simplement. »
Est-ce qu'il y a des choses, des situations, des gens dans votre histoire qui vous ont particulièrement marqué et inspiré ?
Oui, bien sûr. Mes parents, déjà... je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, de choses qu'on nous transmet, avec lesquelles on nous éduque, qui forgent notre personnalité, et donc, si on se dirige vers la scène, à nous permettre d'exacerber un petit peu justement tout ce qu'on a pu emmagasiner étant jeune. Donc oui, évidemment, il y a certaines personnes clés, certains sujets clés aussi, qui nous permettent de pouvoir... griffer une feuille blanche et de pondre tout ce qui nous passe par la tête.
J'ai une question, ma foi bateau, mais est-ce que, en tant qu'humoriste, aujourd'hui, on peut se permettre encore de rire de tout ?
La question, il l'a osé. Alors, je vais essayer de faire preuve d'originalité sans trop me perdre, parce que c'est évidemment une question qui fait fureur pour les journalistes quand on s'adresse à des humoristes. Je pense qu'on peut rire de tout, quel que soit le sujet. Tout dépend de comment le sujet est abordé, l'angle qu'on emploie. Je parlais beaucoup de langue tout à l'heure, ça peut paraître un petit peu flou peut-être, mais tout dépend de comment on aborde une thématique, si on y va de front, si au contraire on se met à la place de gens, est-ce qu'il y a un côté justement un petit peu plus rassembleur qui peut permettre de parler de tout et de rien. Voilà, je pense que la clé c'est ça, on peut rire de tout, mais il faut bien attaquer le sujet.
Vous êtes très actif depuis des années. Vous avez également collaboré avec Thomas Wiesel, on en a parlé tout à l'heure, qui a notamment étudié dans la même école de théâtre que vous. Vous avez collaboré aussi avec Vincent Veillon et Vincent Cuchol lors de vos apparitions dans 120 minutes.
Oui, en effet. J'ai une apparition dans un court long métrage. J'ai presque dire un moyen métrage de 120 minutes. Alors en fait, ça s'est fait de la façon suivante. Ils cherchaient quelqu'un pour jouer une racaille. Johan Provenzano, qui a déjà collaboré avec 120 minutes, a été contacté par justement les deux Vincent. Il ne pouvait pas être disponible. Il a donné mon nom à la production de 120 minutes, qui ont demandé confirmation à Julien Docard de Saint-Preux, chroniqueur sur Couleur 3. Et Julien, merci à lui, leur a dit « Oui, allez-y avec Renaud, ça devrait le faire ». Et j'étais très content de pouvoir faire ça. C'était une autre expérience aussi. J'avais déjà tourné des petites vidéos, mais un tournage de cette ampleur, je l'avais encore jamais vécu. Et c'était une très très bonne expérience avec de très grands professionnels.
Nous connaissons aussi d'autres humoristes chroniqueurs qui ont gagné en visibilité ces dernières années et dont les émissions sont très regardées. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu ces dernières années un contexte favorable à l'éclosion de la scène humoristique en Suisse romande ?
Oui, parce que là aussi ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça fait vraiment quelques années maintenant que le stand-up d'abord a connu une progression dans notre si petit pays. Je pense qu'on ose plus, on tente des choses, forcément plus il y a de monde, plus il y a d'idées, plus ça cogite aussi en groupe. Ça brainstorm, comme on dit dans le jargon des connards. Et du coup, ça émerge aussi sur des idées, des projets de vidéos, de scénarios et autres. Donc je trouve ça extrêmement positif.
Vous êtes donc chroniqueur dans plusieurs domaines, humoriste. Vous êtes très actif et polyvalent. Quels sont vos projets les mois à venir ?
Alors, j'ai pas cette faculté à me projeter comme ça des années devant moi. La crise sanitaire forcément n'aide pas, mais là déjà à court et moyen terme, je peux déjà annoncer que je joue mon spectacle. Ma fameuse date du 8 avril qui était prévue au CPO a été décalée au 14 octobre prochain. Ça tombe pendant les vacances scolaires dans le canton de Vaud, mais j'ose espérer que personne n'osera aller plus loin que Cossonay ou Pantala pendant le mois d'octobre. Donc mon spectacle le 14 octobre pour la première au CPO, il y aura deux dates début décembre au Caustic Comedy Club de Carouge. Et puis peut-être une date qui pourrait se caler aussi du côté de Fribourg. Je pense que l'objectif, une fois que j'aurai commencé et fait ma première date au CPO à Lausanne, ce sera de pouvoir un peu après le jouer forcément dans les mois à venir. Ça va surtout être ça. Ça se compte en moi, mes projets, pour l'instant, on va dire ça comme ça.
On va se quitter, puisque je sais que tu dois partir et on a eu des petits problèmes techniques pour les gens.
Ça arrive,
ne
il faut.
Pas. Enfin bref, je voulais terminer par un petit jeu qu'on a l'habitude de faire dans l'entre-vous. Ça s'appelle le questionnaire de Proust. Est-ce que tu sais ce que c'est ?
J'ai pas cette chance.
D'accord. Je te pose un mot tout simplement et tu dois me répondre quelque chose. On y va ?
Ça marche.
Un homme.
Des gens.
Une femme.
Des Jeannes.
Un lieu.
C'est pas très original, mais Lausanne.
Un objet.
Premier truc que je viens de penser, les clés de chez moi.
Une envie.
Que l'été dure encore un peu plus longtemps, parce que on l'a pas vraiment vu passer.
Une déclaration.
Celle d'impôt, dont j'ai des rappels qu'il faut absolument que je règle avant la fin de l'année, c'est une catastrophe.
Un film.
J'ai pas envie de dire un film, à moins que la question allait venir, mais j'ai envie de dire une série, Afterlife.
Une œuvre.
Le cri de... Merde, qui a peint ça ? Ah là là, c'est scandaleux, le gars donne un nom, puis il oublie le nom de l'artiste droit derrière. Le cri de...
De, voilà. L'entre-vous touche à sa fin. Merci à Renaud de Vargas d'avoir été notre invité. Avant de vous quitter, je remercie l'équipe technique d'aujourd'hui. À la réalisation de cette émission, c'était Florian Papis et Caroline Favre. À la post-production, Jonathan Gilliot. Je remercie également Luciane Chapuis, qui était notre chargée de production, et Elena Calisté, notre attachée de presse. L'Entre-vous est un programme à écouter et réécouter sur notre plateforme ldtlive.com et sur les plateformes musicales telles que Spotify, Deezer, etc. tous les mardis à 18h. Je vous dis bonne journée. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.